tellement la bienvenue au Cheval Blanc et à l'énergie de Michael.
Bienvenue à vous-même, directeur.
Merci. Cette soirée, ceci a un thème et qui a pour titre en somme les jours à venir, que nous réserve-t-il? Est-ce que vous avez un commentaire d'ouverture?
D'abord, nous allons nous amuser un peu. En disant qu'il y a des gens inquiets ici, qui se torturent avec le futur, bien sûr, nous répondrons à ces questions. Mais avant de répondre à ces questions, nous allons d'abord vous donner un commentaire d'ouverture sur lequel nous reviendrons au cours des enseignements qui seront donnés. Un jour, il y avait dans une ville importante, la ville considérée la plus importante sur le plan terrestre, la Jérusalem. Il y avait une convocation afin que quelqu'un soit élu pour devenir le roi de cette cité. Pendant plusieurs jours, les gens avaient à réfléchir à savoir s'ils accepteraient de devenir ce roi. Le jour convenu, seulement deux personnes se présentèrent. Ils étaient tous les deux dans l'énergie masculine. Un homme vêtu d'une robe rouge et un homme vêtu d'une robe blanche. Alors, ils se retrouvèrent face à face devant une table, devant dire chacun pour quelle raison il voulait conduire ce royaume. Celui qui portait la robe rouge un peu plus audacieux dit à l'autre, « Quelles sont les raisons qui t'amènent ici et comment peux-tu penser que tu seras le chef de ce royaume ?»« Je n'ai pas de raison, dit l'homme vêtu de blanc. Je sais simplement que je dois faire ceci. Est-ce que tu as de l'argent ? Reprit le premier. Non, je n'en ai pas, répondit le second. Et comment feras-tu si tu n'as pas d'argent ? Si tu n'as pas d'argent, tu n'auras pas de pouvoir. Et si tu n'as pas de pouvoir, tu ne pourras pas régner. Je n'ai ni argent ni pouvoir, répondit le second. Alors convenons d'un jour donné où nous aurons à la suite d'une épreuve à prendre la décision qui de nous deux sera le roi de ce royaume. Ils convinrent ensemble qu'ils allaient le 11e jour du 11e mois escalader la montagne et que le premier qui serait rendu au sommet serait celui qui deviendrait le roi de cette Jérusalem céleste. Voici donc que celui qui était vêtu de rouge avait commandé à ses serviteurs de mettre dans la montagne d'installer confortablement deux téléphériques, un qui serait sur la pente nord, qui serait très visible et qui pourrait être emprunté par celui qu'il considérait comme son ennemi, et un autre qui serait sur la pente sud et qui serait dissimulé entre les arbres et ne pourrait pas être vu de son ennemi. Alors, se disait-il, l'ennemi verra ce téléphérique, puisqu'il n'a pas d'argent, il n'aura pas le moyen de s'en créer un, il décidera de le prendre pour monter rapidement au sommet de la montagne, mais comme celui-ci n'ira qu'aux deux tiers, alors il sera pris pour redescendre, remonter, et j'arriverai le premier. Pendant ce temps, l'homme vêtu de blanc se retira dans le silence et dans la méditation. Il demanda au ciel d'être guidé et que s'il devait conduire ce royaume, qu'il ait un moyen pour atteindre le sommet de cette montagne le 11e jour à la 11e heure. Voici donc que le jour venu, il sortit de bon matin avant le lever du soleil. Il vit qu'il y avait sur le bord de la plage un homme qui marchait. Cet homme était vêtu d'un petit bonnet blanc. Il s'approcha de lui et lui dit, « Je ne te connais pas, que fais-tu ici ?» L'homme lui répondit, « Je suis un aviateur et je voudrais essayer dans cette région mon avion. Mais j'aimerais ne pas monter seul car je voudrais prendre des photos aériennes, mais je n'ai personne pour m'accompagner. Et je voudrais y aller aujourd'hui car je dois par la suite retourner dans mon pays. L'homme vêtu de blanc comprit que ceci était un signe. Il accepta de monter avec l'aviateur. Et sans conteste, il fut le premier au sommet de la montagne. Et c'est ainsi qu'il devint le roi. C'est le commentaire que nous avons pour vous ce soir. Nous y reviendrons au cours des enseignements. Maintenant, nous serions prêts pour vos questions.
Oui.
Il y a une première question qui a été demandée par écrit. Pouvez-vous nous parler de télédéportation?
Certainement. Avant de vous parler de téléportation, nous allons d'abord vous parler un peu du sujet de ce soir, si vous acceptez ceci. Vous avez parlé des événements du futur. Nous vous dirons les événements du futur, ils sont dans votre pensée présente. Cependant, nous allons vous donner quelques enseignements. Dans les temps présents, à ce moment où le taux vibratoire est beaucoup plus élevé sur le plan terrestre, parce qu'il y a des êtres de d'autres plans qui, commandés par l'énergie suprême, ont accepté de venir remplir ce mandat pour énergiser le plan terrestre et faire de cette guerre finale et que finalement leur roi, celui qui régnera sur cette Jérusalem céleste, puisse être enfin élu. Ce roi, c'est le Dieu de la lumière, c'est le Dieu de l'unité, c'est l'énergie christique. Et nous vous dirons que cette lumière, que ce Dieu de l'unité et que cette énergie christique habitent chacun de vos cœurs. Bien sûr, il y a sur le plan terrestre actuellement deux forces qui s'opposent. Les forces que nous appellerons les énergies divines et les forces que nous appellerons les énergies de lumière. Parmi ceux qui gèrent, c'est-à-dire qui sont ces énergies grises que nous ne voulons pas qualifier d'ennemis du Père, puisqu'ils collaborent à leur façon à l'évolution du plan terrestre. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils exercent depuis des milliers d'années le pouvoir sur le plan terrestre, pouvoir sur la pensée et pouvoir sur l'esprit. Et lorsqu'ils exercent le pouvoir sur la pensée et l'esprit, ils peuvent ensuite exercer le pouvoir à tous les niveaux, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau monétaire. Ils exercent le pouvoir. Mais nous vous dirons que dans les temps présents, leur pouvoir tire à la fin. Tire tellement à la fin que vous voyez les conséquences de ceci sur le plan terrestre. Vous voyez, par exemple, au niveau du plan monétaire, une forme, nous dirions, de grand tremblement de terre interne. Vous voyez, depuis un certain nombre d'années, dans ce siècle présent, depuis presque le début de ce siècle, il y a eu de grands mouvements. Il y a eu ce que vous avez appelé la crise économique des années 29-30-31. Ensuite, la guerre. Ensuite, une autre baisse au niveau économique. Puis, il y a eu une forme d'invasion de ces énergies grises. Et ce que ces énergies grises sont venues semer dans l'esprit des gens, c'est que la paix et le bonheur existent dans la mesure où vous possédez l'énergie monétaire. Alors les gens se sont laissés instruire par ces énergies et ont décidé qu'ils allaient devenir riches. Et lorsque les uns ont décidé de devenir riches, les autres sont devenus pauvres. Et il y a eu une grande division qui s'est créée au niveau du plan terrestre, où il y a les pays riches contre les pays sous-développés. des pays qui sont sous-développés et abusés. Mais cependant, nous vous dirons la force de ces êtres qui sont venus créer cette forme de pensée de pouvoir. Le règne de ces êtres achève, tire à sa fin. Ceci suppose, bien entendu, qu'il y aura des événements difficiles et nous dirions des transformations très importantes se situant à tous les niveaux. Vous pourrez voir d'abord cette transformation se faire dans les êtres, c'est-à-dire dans le plan individuel de chaque être. Ensuite, ceci se répercutera dans tous les plans, que ce soit le système scolaire, que ce soit le système de santé, ou le système monétaire, ou religieux, ou tous ces systèmes qui étaient déjà établis. Vous allez sentir que cet édifice est en train de craquer et est en train de crouler de toutes parts. Mais lorsque cet édifice sera tombé par terre, c'est là que les forces de lumière viendront intervenir. Elles interviennent déjà d'abord de façon très importante. Nous vous dirons si vous observez autour de vous, depuis à peu près 8 années, il y a une forme de montée au niveau ésotérique. Nous expliquons. Le mot ésotérique par rapport au mot exotérique. Exo qui veut dire extérieur, qui veut dire recherche à l'extérieur des sources de bonheur. Alors que ézo veut dire intérieur. Et vous voyez maintenant, vous voyez maintenant que les gens commencent à comprendre que la ressource la plus importante est à l'intérieur. C'est pourquoi il y a des gens qui se transforment, qui évoluent au niveau spirituel, qui élargissent leur conscience et qui progressivement deviennent des maîtres, deviennent des disciples qui entrent dans ce chemin que nous avons appelé le chemin de la 11e heure, le chemin qui conduit au sommet de la montagne, le chemin qui reconduit vers la source, le chemin qui conduit à l'unité intérieure. Et plus les êtres auront développé cette unité intérieure, plus ensuite l'unité se fera de façon globale sur le plan terrestre. Vous avez entendu parler par d'autres sources de tremblements de terre, de famine, d'inondations, de crashs économiques. Nous vous dirons tout ceci existera et existe depuis des siècles sur le plan terrestre. Vous avez vu même dans les mois derniers des tremblements de terre importants, autant dans les terres de Californie que dans les terres de Québec. Vous avez vu également des ouragans importants du côté du pays de la Floride, dans les États-Unis d'Amérique. Alors nous vous dirons, bien sûr, tout ceci existe. Il y a les guerres entre l'Iran, l'Irak et bien d'autres guerres intestines et internes à des pays. Mais nous vous dirons, ceci n'est rien à côté des tremblements de terre qui existent dans le cœur des humains. Et c'est là que sont les plus grands tremblements de terre. Nous vous dirons, lorsque l'âme est ébranlée, lorsque vous n'avez plus d'argent, lorsque vous n'avez plus d'emploi, lorsque vous perdez le conjoint, lorsque les enfants vous fuient et que vous passez à travers toutes ces épreuves, c'est alors que vous êtes dans l'obligation de vous tourner vers la seule source qui peut vous apporter réponse qui est à l'intérieur de vous. Et c'est ceci l'événement du futur. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup d'âmes qui seront ébranlées et qui entreront dans le chemin de la transformation. Si vous désirez être du côté des énergies grises, deux éléments peuvent vous aider. Un, la peur. La peur de toutes sortes. Peur d'être malade, peur de manquer d'argent, peur de n'être pas nourri, peur de manquer de pain, de blé et de maison. peur de toute nature, toutes les peurs de toute nature. Et ensuite, un autre élément avec la peur, c'est le jugement. Si vous jugez ce que vous considérez les énergies grises, alors ce que vous ferez, c'est que vous répéterez ce cycle et que vous deviendrez à votre tour faisant partie de ces énergies. Alors tenez-vous loin du jugement, tenez-vous loin de la peur. Ouvrez votre cœur à la liberté, ouvrez votre cœur à l'amour, ouvrez votre cœur à la compassion, au non-jugement, au détachement. Et alors, vous n'aurez rien à craindre, parce que vous serez alors habité par la paix, habité par la lumière, et vous pourrez avancer sur votre propre chemin, sans avoir peur, sans être habité par ce vide. Maintenant, nous revenons à cette question au niveau de la téléportation. Vous avez depuis des siècles, ou pour vous-même, peut-être quelques mois ou quelques années, entendu parler de ce phénomène de la téléportation. Nous vous dirons, si vous avez fait une lecture attentive des textes évangéliques, vous voyez bien que Christ, déjà, était venu annoncer ceci. Lorsqu'un jour, les apôtres, dans la tempête, voyaient quelqu'un qui avançait, marchant sur eux. Le Christ, ayant trouvé son énergie totale à l'intérieur de lui-même, s'étant concentré totalement à l'intérieur de lui-même, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait aboli la loi. La loi qui dit, qui est la loi de la pesanteur, qui dit que vous retombez toujours par terre et que le poids qui est lourd tient au sol. Alors, il avait tout simplement, par l'amour et par cette force lumineuse à l'intérieur de lui, franchi cet obstacle contenu dans cette loi. Plus vous allez être ouvert au niveau du cœur, plus vous allez être en contact avec la lumière, plus vous allez vous dépouiller des jugements, des rancunes, des jalousies, des haines, des colères qui vous habitent, de tous les règlements de compte, nous dirons, que vous avez à régler avec vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs, vos amis, plus vous vous débarrasserez de cette couche très lourde qui vous alourdit et qui vous force à être en contact avec cette loi de la pesanteur. Plus vous allez vous dépouiller de ceci, plus vous allez entrer dans l'énergie de paix, dans l'énergie d'amour, alors plus vous allez pouvoir dépasser ces lois et en arriver à la pesanteur. Nous vous disons que d'ici quelques... nous dirons du temps. Nous n'aimons pas beaucoup enfermer les choses dans le temps parce que le temps est un piège. Mais nous dirons d'ici 20 ou 25 ans, vous n'aurez plus besoin de tous ces systèmes qui vous transportent et qui vous créent les maux de tête. Plusieurs parmi vous ayant atteint la sagesse auront dépassé cette loi de gravité et pourront se déplacer par la téléportation. Est-ce que ceci répond à la question qui a été posée?
Est-ce qu'il y a des commentaires parmi l'assistant par rapport à ce qui a été dit jusqu'ici? Possible de juste parler au micro.
Quand je parlais de téléportation, je voulais dire les jours à venir qui vont arriver, il va y avoir des toutes sortes de choses qui vont arriver sur la Terre. On n'est pas supposé d'être téléporté sur d'autres planètes.
Très bien. Nous comprenons maintenant cet accent que vous voulez mettre sur cette question. Nous vous dirons que déjà sur le plan terrestre, il y a des gens qui sont téléportés. Cependant, lorsque vous parlez de téléportation, vous voyez le plus souvent des vaisseaux, comme ce que vous appelez les ovnis, et vous voyez des êtres visibles venant vous chercher, vous faisant monter dans ces véhicules et vous amenant sur votre plan. Nous vous dirons que vous pouvez avoir cette façon de penser si vous voulez, avec ces images, mieux comprendre le monde invisible. Mais nous vous dirons que plusieurs de ces téléportations se font déjà, mais elles se font comme dans l'invisible. Il y a plusieurs êtres parmi vous qui, pendant les périodes du sommeil, par exemple, sont téléportés dans d'autres univers pour recevoir des enseignements. Nous vous dirons de plus, lorsqu'il y a des catastrophes où il est difficile de pouvoir dénombrer le nombre de personnes décédées, par exemple, si vous avez un cratère qui se forme et qu'il y a des centaines et des milliers de personnes qui descendent dans ce cratère, on pourra bien sûr, après avoir enlevé tous les
débris
et matériaux, aller chercher des corps et dénombrer et dire il y a 3000 personnes qui sont décédées. Mais peut-être bien qu'il y en a beaucoup plus que 3000 et même 5 ou 6000. Mais ce qui n'est pas plus du plan terrestre actuellement, c'est qu'au moment de ces catastrophes, il y a beaucoup d'âmes qui sont téléportées dans d'autres plans et qui seront ce que vous appelez portées disparues. Comprenez-vous, ceci existe déjà. Ceci existera de façon plus importante dans les temps à venir, c'est-à-dire avant les années 2012. Et nous parlerons de 2011, peut-être bien, si vous voulez observer le chiffre 11, qui est l'heure avant la dernière heure, si vous voulez bien comprendre ce langage un peu hermétique. Est-ce que ceci répond au sujet ou à la question que vous posez, chère dame? Il y aura bien sûr des objets que vous verrez, que vous appelez les ovnis, qui sont des objets animés et visibles venant de d'autres plans. Mais il y a beaucoup plus, nous dirions, de vaisseaux invisibles que de vaisseaux visibles.
Qu'est-ce qui va arriver en août 93? C'est pas supposé d'avoir 3 jours de noirceur?
Nous vous dirons, ceci peut être. Il devait y avoir 3 jours de noirceur dans les mois de mai dernier. Ceci ne s'est pas produit parce qu'il y a beaucoup d'êtres actuellement sur le plan terrestre s'ouvrant à l'énergie plus subtile et à l'énergie, nous dirions, comme s'ils étaient en contact direct avec l'énergie de d'autres plans. Et selon la qualité de pensée et vos formes pensées, vous pouvez, nous dirions, soit reculer ces événements ou soit les atténuer. C'est pourquoi nous insisterons sur le fait de penser que vous êtes des fils de lumière, que vous êtes les rois de lumière, que vous pouvez faire que ces événements soient de beaucoup atténués. Nous expliquerons. Il y a eu des prophètes, des guides, des médiums qui depuis plusieurs centaines d'années sont venus enseigner sur le plan terrestre. Vous avez eu dans ce que vous appelez les livres de l'Ancien Testament plusieurs prophètes. Vous avez eu le prophète Bouddha. Vous avez eu le grand prophète Christ. Mais Christ lui-même disait que les prophètes ne sont pas reconnus dans leur pays et qu'ils ne sont pas nécessairement accueillis dans la parole et la révélation qu'ils donnent. Alors nous vous dirons, il y a parmi vous des prophètes, il y a parmi vous des saints qui viennent vous donner l'enseignement au sujet de la lumière, qui viennent vous appeler à être ces travailleurs de lumière. Il est important que vous vous éveillez à ceci. alors vous pourrez, nous dirons, atténuer ces jours de noirceur. C'est pourquoi nous n'allons pas fixer dans le temps un jour, une heure et un moment où pourraient se produire ces jours de noirceur. Il a été dit par un grand médium, portant la vibration du nom de Edgar Cayce, que la Terre serait, se replacerait sur son axe, car depuis la chute au niveau de l'Atlantide, la Terre a été déplacée. Et il avait dit que cette Terre se replacerait sur son axe. Certains prophètes qui sont actuellement sur le plan terrestre tiennent le même langage. Et c'est ce replacement sur l'axe qui créerait tous ces mouvements très difficiles au niveau de la planète Terre. Mais nous vous dirons, la planète Terre, c'est le cœur des hommes. Et ne la voyez pas de d'autres façons. Et vous verrez, parmi les gens qui n'acceptent pas d'entrer dans le mouvement d'évolution, combien ils seront bouleversés aux heures de certains événements. Nous vous dirons au sujet des événements futurs et s'il y avait ces jours de noirceur. La seule chose qui est importante, c'est de savoir que vous n'êtes pas dans la noirceur puisque vous êtes lumière. Et que même s'il y avait une noirceur extérieure, il n'y a pas de noirceur intérieure. Vous n'avez jamais vu la nuit demeurer lorsque le soleil se lève. Lorsque le soleil apparaît, la nuit recule. Et c'est le processus qui est enclenché sur le plan terrestre actuellement. La lumière ne reculera pas. Vous allez vers les jours de paix et vers les jours de lumière. Alors si vous vivez à l'intérieur de votre être des bouleversements, des grands tremblements de terre, si vous avez l'impression de ne plus vous reconnaître, réjouissez-vous, car dites-vous que vous êtes en train d'entrer dans cette cité nouvelle dont nous avons parlé au début. Et au début, nous avons dit, dans ce commentaire d'ouverture, qu'il y avait un être possédant le pouvoir de l'argent et tout pouvoir de terre, et qui avait la certitude qu'avec ce pouvoir, il serait le roi de ce royaume. Et l'autre, qui n'avait pour lui que son cœur, que son amour, a reçu au dernier moment l'élan dont il avait besoin pour être là où il devait être au moment du couronnement. Et c'est vers là que vous allez. Si vous ne cessez pas de dire que vous allez vers les jours obscurs, avec votre pensée, vous allez créer cette obscurité. Si vous ne cessez pas de dire que vous allez vers la lumière, vous irez vers cette lumière et vous la connaîtrez. Et vous connaîtrez cette paix et cette Jérusalem nouvelle. Avez-vous d'autres questions?
J'aimerais que vous me parliez, s'il vous plaît, des sept trompettes.
Pouvez-vous, s'il vous plaît, répéter cette question directeur?
J'ai besoin de l'entendre aussi.
J'aimerais que vous me parliez des sept trompettes.
Nous allons d'abord vous parler du chiffre 7. Le chiffre 7 est un chiffre prophétique. Il est un chiffre parfait. Il est le chiffre, nous l'appellerons le chiffre de l'ascension ou le chiffre de l'initié. L'initié, et nous pourrons élargir ce sujet en disant qu'au début, et tout ceci, prenez ce langage comme un langage symbolique, car nous vous dirons que le langage que nous tenons, nous l'utilisons avec les expressions et les mots que vous voulez bien nous prêter pour vous donner cet enseignement qui est beaucoup plus subtil que l'énergie des mots que nous utilisons. Disons qu'au début, lorsque le Père créa la Terre, il créa sept systèmes solaires, et que dans chacun de ces sept systèmes solaires, il créa sept planètes principales. Et qu'il créa, disons par exemple, dans l'un de ces systèmes solaires, que vous appellerez le système solaire du plan terrestre, Une de ces planètes a été la planète Terre. Sur cette planète Terre, il a été décidé également qu'il y aurait sept niveaux, ou sept niveaux d'ascension, si nous pouvons ainsi nous exprimer. Mais que dans chacun de ces sept niveaux d'ascension, il y aurait sept étages ou sept paliers à franchir. Alors voyez toujours le chiffre 7 se multipliant. Pour franchir un palier, il faut qu'un être se libère d'une énergie plus lourde. Si elle n'a pas travaillé, si elle est restée dans l'indolence, si elle est restée dans une sorte de sommeil, elle reviendra autant de vie qu'il sera nécessaire pour franchir ce premier palier. Et ensuite, elle franchira dans ce premier cycle, sept paliers. Ensuite, elle recommencera avec une conscience plus élargie. Et ensuite, elle recommencera. Il a été aussi parlé dans plusieurs volumes, et surtout les volumes de Ali A. Bélé, des sept plans d'énergie, ou plutôt des sept étapes ou... Un instant, nous trouvons l'expression employée par cette femme. Cette race, appelons ceci des races, comme s'il y avait eu les races au temps de la Lémurie. Mais ne voyez pas que le temps de la Lémurie n'a été qu'un temps très bref, de à peu près 100 ans, bien au contraire. Ce temps a été sur des siècles et des siècles, et il y a des maîtres parmi vous qui sont dans cette salle, qui ont vécu des centaines de vies au temps de la Lémurie, ensuite qui ont vécu des centaines de vies au temps de l'Atlantide, au temps de l'Égypte ancienne, au temps de la Rome ancienne, et ainsi de suite. Et ensuite, nous vous dirons que les êtres qui ont traversé ces plans, il y en a parmi eux qui ont évolué et d'autres qui ont moins évolué, qui prennent plus de temps pour l'expérimentation. Alors, ils seraient, sur le plan terrestre actuellement, des gens de la deuxième, troisième et quatrième race. Parmi ceux qui sont dans la deuxième et troisième race, il y a des gens qui ont de grands abus de pouvoir au niveau du corps physique. Il y en a d'autres qui ont beaucoup de pouvoir au niveau de la guerre et au niveau d'anéantir des pays et des races entières, par exemple par des bombes qui créent des séquelles très importantes dans le cerveau et dans le corps physique des humains. Mais nous vous dirons que présentement, il y a des gens, et il y en a plusieurs parmi vous qui êtes dans cette salle, ici ce soir, qui sont en train de passer de la cinquième à la sixième race. La sixième race, c'est la race de la compassion. C'est la race de l'ouverture de la conscience. Et nous vous dirons, lorsque vous aurez franchi cette sixième race, et que vous serez totalement purifié dans chacune de vos cellules, que vous aurez démoli tous les schémas anciens et que vous serez entré dans les schémas nouveaux qui n'est qu'amour, alors vous franchirez la septième race et alors vous pourrez entendre ces sept trompettes qui sont des trompettes symboliques, c'est-à-dire que vous pourrez franchir les sept paliers des sept de la septième et dernière étape avant de retrouver cette source. Il est difficile de vous donner des enseignements plus clairs à ce niveau, parce que même ces mots de trompette, ou ces mots de guerre, ou de tremblement de terre, se situent beaucoup plus au niveau énergétique qu'ils ne se situent, nous dirions, dans la symbolique que vous pouvez voir ou entendre avec les sens que vous avez présentement. Comprenez-vous ceci? Dans la septième race, vous aurez beaucoup plus que cinq substances.
Merci. une autre question.
Quels seraient les gestes concrets qu'on pourrait poser pour sauver la planète?
Chère dame, que nous sommes heureux et que nous vous applaudissons de poser cette question. Si vous voulez sauver la planète, il est possible de le faire. Il faut pour ceci sauver votre propre cœur de l'obscurité. Car la planète, c'est le cœur des humains. Et la planète, si elle réagit aujourd'hui, elle ne réagit qu'aux vibrations émises par les humains. Si les humains émettent des vibrations de colère, cette terre mère, cette terre sacrée, reçoit des vibrations de colère. Mais si votre cœur est empli d'amour et de compassion pour tous vos frères humains et pour vous-même en tout premier lieu, si vous pouvez dire sans aucune, sans l'abstraction de rien du tout, si vous pouvez dire je m'aime totalement, je m'aime dans mon corps, je m'aime dans mes émotions, je m'aime dans mon mental, je m'aime dans mon cœur, je m'aime dans mon travail, je m'aime dans mes relations avec les gens, je m'aime dans ma conscience, dans l'ouverture spirituelle que j'ai, et j'aime chacun de mes frères dans l'expérimentation qu'ils traversent, nous dirons déjà la planète Terre est sauvée. Parce que vous émettez alors des ondes si puissantes que la Terre ne peut pas résister à cette guérison. L'amour est plus fort que la guerre. L'amour est plus fort que l'obscurité. L'amour est plus fort que toutes les maladies terrestres. Et nous vous dirons, si vous voulez sauver la Terre, sauvez d'abord la Terre de votre cœur en le laissant baigner dans cet amour et dans cette énergie Christ.
Merci.
Bienvenue.
Bonsoir, c'est une question de curiosité. Pourquoi vous avez parlé de... vous avez dit quand le soleil se lève à Paris? Elle a dit Paris à un moment donné. Je voudrais savoir pourquoi.
Parce que c'est vous seule, chère dame, dans cette pièce, qui aviez besoin d'entendre ce mot. Parce que vous avez besoin d'un signe concret pour croire.
Une autre question écrite. Est-ce que certaines régions sont protégées? Est-ce que Saint-Jean est protégé?
Est-ce que les gens de Saint-Jean croient à la protection? Si oui, ils sont protégés. S'ils croient qu'ils ne sont pas protégés et qu'ils veulent fuir, alors ils peuvent fuir. Mais nous vous dirons, s'ils entraînent dans leur cœur cette peur de ne pas être protégés, peu importe où ils seront, ils ne le seront pas. Nous vous dirons qu'il y a ici, dans cette pièce, que cette pièce puisse être divisée en deux par un cratère. S'il y a des gens qui ont peur, ils iront directement dans le cratère. S'il y a des gens qui n'ont pas peur et qui ont la foi dans cet amour et cette lumière qui envahit le plan terrestre actuellement, ils seront sauvés, serait-il sur la ligne qui a fendu ce cratère. Nous avons dit précédemment que c'est seulement avec la peur et le doute que vous allez crouler dans l'obscurité. Nous allons vous donner un petit exemple. Vous connaissez bien les enfants. Lorsqu'un enfant a confiance en son père ou en sa mère, disons qu'une nuit, l'enfant n'arrive pas à dormir, il fait trop chaud. La mère décide qu'elle va bercer l'enfant. Mais comme il fait nuit, elle décide de rester dans l'obscurité. Est-ce que l'enfant a peur? Parce qu'il y a l'obscurité. Non point. Parce que sachant qu'étant dans les bras de son père ou les bras de sa mère, il n'y a aucun danger, peu importe qu'il y ait la clarté ou l'obscurité. Ceci est-il plus clair? Le futur, il est dans votre pensée présente. Il n'est nulle part ailleurs. Nous allons vous donner un exercice que nous donnons à l'occasion. Prenez un petit morceau de papier, le plus beau que vous ayez, avec la couleur de votre préférence, et écrivez sur ce mot en lettres d'or « Demain ». Prenez ce papier, collez-le devant votre lit dans votre chambre, et levez-vous le matin, et voyez si demain est là, ou s'il recule chaque jour. Alors nous vous dirons une seule chose est importante, c'est le présent. Est-ce que vous êtes dans la lumière du présent? Si vous répondez oui, nous vous dirons le futur sera lumière. Avez-vous d'autres questions?
Question.
Durant la dernière guerre mondiale, il y a des gens qui ont tenu les mêmes discours, qui disaient que rien n'arriverait sur la Terre, qu'il est quand même arrivé des choses. Vous expliquez ça comment, avec toute la lumière qui est supposée se promener?
Nous expliquons que les gens qui ont cru à l'obscurité ont sombré dans l'obscurité, et que c'est ceci qui est arrivé, et que si vous voulez sauver le plan terrestre, vous devez croire à la lumière.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont été déportés durant la dernière guerre mondiale, qui ne sont pas vraiment morts?
Et bien avant cette guerre. La téléportation n'existe pas uniquement depuis ce siècle. Vous qui avez vécu au temps de l'Atlantide, si vous étiez capable de laver un peu votre mémoire, vous sauriez ceci. Avez-vous d'autres questions?
La nouvelle planète en formation, est-ce que c'est un changement qui va s'effectuer sur la Terre?
Certainement. N'imaginez pas que cette nouvelle planète qui est en transformation ou en formation, comme vous dites, est dans un autre lieu. Il y a beaucoup d'êtres actuellement sur le plan terrestre qui désireraient quitter ce plan pour aller vers des plans plus lumineux, pour échapper à cette misère, à cette souffrance qui est sur le plan terrestre. Mais nous vous dirons qu'il y a des êtres qui sont dans d'autres plans, qui voudraient bien venir expérimenter sur le plan terrestre, car le plan terrestre est un lieu d'expérimentation par excellence. Cette terre nouvelle qui est en train de se créer, elle ne se créera pas ailleurs que nous dirions dans ce système solaire présent.
Est-ce que c'est ce qu'on appelait le paradis terrestre?
Ceci est symbolique encore. Lorsque vous avez parlé du paradis terrestre ou que ces expressions ont été utilisées par certains prophètes qui écrivaient des textes pour pouvoir instruire le peuple, mais nous vous dirons que ces textes ont été beaucoup manipulés et utilisés de toutes sortes de façons par des êtres ayant le pouvoir. Aujourd'hui, il est difficile de croire que ces textes sont parfaitement clairs et lumineux. Mais ceux qui ont la foi et qui sont, nous dirions, dans cette énergie de Christ et dans cette énergie de lumière, peuvent, à travers l'obscurité, aller chercher, nous dirions, la clarté de ces textes. Lorsqu'il a été parlé de paradis terrestre, c'est-à-dire qu'il a été parlé de la condition première avant la création, avant que l'être, avant, nous dirions que Dieu est projeté à l'extérieur de Dieu, toute la création. Et cette création, elle est bien, puisqu'elle a été projetée à l'extérieur, comme si le cœur de Dieu avait éclaté dans l'expérimentation. Et alors, nous vous dirons, il y a des... se sont formés un instant. Nous allons reculer au niveau de l'information. Nous allons expliquer les siècles anciens ou les débuts des temps, si vous voulez, toujours avec des expressions symboliques, puisque ce sont des mots. Nous allons expliquer ces débuts des temps comme étant une forme de chaos, comme étant une forme d'énergie lourde qui n'avait pas pris forme et qui n'avait pas non plus été investie de l'esprit. Mais cette matière, puisqu'elle est toujours en évolution et toute matière est en état évolutif, cette matière... devenu l'être humain était au début une race informe et cet être était monoïde, c'est-à-dire qu'il était comme non point en relation avec ce qui était extérieur à lui. Nous donnerons par exemple l'exemple du corps physique de l'humain, n'était pas d'abord un corps physique tel que vous le voyez. Il était une masse informe possédant à l'intérieur de lui un grand pouvoir qui était comme une antenne et cette antenne émanait de cette masse informe pour aller comme un radar chercher l'information que nous appellerons l'information évolutive. Mais à mesure que l'être humain s'est formé, il a été investi de la pensée. Et c'est au moment où il a été capable d'utiliser la pensée que s'est retirée cette masse à l'intérieur du cerveau. Vous l'appelez aujourd'hui la glande pinéale. Elle a dormi pendant des siècles. Mais lorsque le cerveau humain est apparu, c'est alors qu'est apparue la division. La division entre le féminin et le masculin. La division entre le bien et le mal. Et lorsqu'il était formé de ce paradis terrestre, c'était le lieu où il n'y avait pas de division, qui était purement l'énergie Dieu. Mais à mesure de ce grand cheminement évolutif, il y a eu cette division entre l'homme et la femme. Et il était question dans ce que vous appeliez ce paradis terrestre d'un homme et d'une femme qui avait tenté l'homme par le biais d'un serpent qui a porté la forme et tout ceci est symbolique, mais ce symbolisme est de grande valeur, nous vous dirons. Et il a été dit que celui qui pourrait manger ce fruit aurait la connaissance du bien et du mal. Et en parlant de bien et de mal, de la science du bien et du mal, il était question de la division. Et c'est de là qu'est partie cette division. C'est difficile d'exprimer ceci avec des vibrations humaines, mais à partir de cette image, nous croyons que vous pouvez comprendre ce langage. Et vous retournez, nous avons dit au début de cet entretien que vous retournez vers la Jérusalem céleste ou vers cette terre nouvelle, appelez-la comme vous le désirez, vous y retournez en créant à l'intérieur de vous une unité parfaite.
D'autres questions?
J'ai deux questions. Est-ce que ça veut dire que supposons que la création veut dire la division des cellules par deux. Est-ce que ça veut dire que c'était pas tout à fait la bonne solution comme création?
Non point. Tout est parfait. Mais tout est difficile à comprendre avec le mental et avec la raison qui veut tout décortiquer. Et la raison humaine est tellement étroite qu'il lui faudra le bon du futur pour pouvoir s'élargir suffisamment pour tout comprendre. Et nous vous dirons que vous ne comprendrez pas par le mental, mais que vous comprendrez par le cœur, car c'est le cœur qui livrera la science des sciences et la vérité des vérités.
Est-ce que je peux poser une question personnelle?
Certainement.
Si ça a trait avec le sujet, on aimerait...
J'ai souvent, avec les chansons, j'ai des affinités, elles me rappellent quelque chose. Il y en a une que je ne suis pas capable de trouver, c'est quoi? C'est tam taram tararara. C'est le retour de l'aigle, quelque chose semblable. Ça veut dire quelque chose dans l'histoire, je sais pas. C'est ça que je veux savoir.
Ceci veut dire quelque chose dans vos vibrations. Comprenez-vous? Dans vos propres vibrations. Chaque être est touché par des vibrations différentes. Vous n'êtes pas tous touchés par les mêmes vibrations au même moment et au même temps. Cette vibration de cette chanson nous parlait bien sûr de l'élévation de l'aigle qui a dévoré le foie, c'est-à-dire qui a dévoré dans le corps le lieu de la colère et qui ensuite peut s'élever dans des zones plus éthériques. Comprenez-vous? Et c'est par cette énergie de l'aigle que vous êtes touché.
Merci. Une autre question écrite. Que signifie l'apocalypse de la Bible?
L'apocalypse de la Bible, ceci est comme le langage des prophètes. C'était l'annonce de ce qui est vécu dans les temps présents et se vivra dans les temps futurs. Mais l'apocalypse écrit par le prophète Jean. Nous vous dirons, était écrit et inspiré dans des façons très symboliques, comme par exemple lorsque vous allez dans le domaine du rêve. Parfois, il vous est difficile de recevoir des instructions très précises de vos guides et de vos maîtres. Ils se manifesteront à vous, par exemple, sous la forme d'un oiseau, ou sous la forme d'un dauphin, ou sous la forme tout simplement d'une lumière. Alors, pour rejoindre vos vibrations, ils doivent emprunter des symboles. Jean, lorsqu'il a été amené, nous dirions, on pourrait dire téléporté, dans des plans supérieurs, ainsi que Paul, qui disait, je ne sais pas si j'étais dans mon corps, ou hors de mon corps, il aurait pu dire, je ne sais pas si j'étais sur le plan terrestre ou si j'avais été téléporté dans d'autres plans. Et alors, dans ces autres plans, ils ont reçu une instruction, ils ont reçu des enseignements et ils ne pouvaient pas capter ces enseignements avec l'intelligence matérielle et avec la parole physique. Alors, ils ont reçu des symboles pour pouvoir ensuite venir donner ces enseignements au plan terrestre. Et c'est pourquoi nous avons parlé précédemment de l'énergie de ces sept tempêtes, de tous ces symboles qui ont été utilisés par Jean. Mais il y a d'autres symboles qui ont été utilisés par de grands médiums, comme Edgar Cayce ou Nostradamus, qui ont parlé également de cette apocalypse, mais en d'autres termes. Nous vous dirons que les grandes guerres mondiales faisaient partie de ces, nous dirions, terreurs apocalyptiques. Comprenez-vous? Si vous désirez une réponse plus claire, vous pouvez élaborer davantage avec la question.
Pouvez-vous nous donner la définition de la supraconscience?
Vous voulez enfermer dans des concepts ce qui ne s'enferme pas. Un instant. Nous espérons de trouver des expressions matérielles pour... Vous savez, si nous vous disions, pouvez-vous s'il vous plaît venir mettre dans notre main ou dans la main de la forme un son? Comment pourriez-vous faire ceci? Le son est immatériel. Vous ne pouvez pas le saisir. Vous l'entendez. Si disons par exemple, écoutez bien, nous allons chanter un son. Sol. Vous avez entendu ce son? Où est-il maintenant? Il y en a qui l'entendent encore. Il y en a qui ne l'entendent plus. Il y en a qui ne l'entendront pas demain, ni après-demain, ni dans 100 jours. Mais ce sol ne s'est pas perdu. Sa vibration est partie dans l'univers et elle ne s'éteindra jamais. C'est pourquoi nous avons souvent dit de chanter le son, le souffle et la lumière. Alors, lorsque vous parlez de la supraconscience et que vous nous donnez, nous demandez une définition matérielle, nous vous dirons qu'il est difficile. Nous vous dirons que cette supraconscience est la connaissance absolue, conjointe avec l'amour absolu. Voyez par exemple, réunis dans le 1, l'énergie du Père, l'énergie du Christ et l'énergie de l'Esprit, ne formant qu'une seule conscience, ne formant qu'une seule lumière, ne formant qu'une seule force, nous vous dirons cette conscience, cette force, cette lumière, cette vibration absolue, elle est cette conscience dont vous parlez, ou cette supraconscience. Appelez-la supraconscience. Appelez-la la cinquième, la dixième, la vingtième âme. Appelez-la l'énergie pure. Appelez-la le moi supérieur. Tout ceci a pour expression d'exprimer des vibrations toujours de plus en plus parfaites, donnant accès à la connaissance parfaite et à l'amour parfait, car Dieu est connaissance et amour parfait.
Merci.
Bienvenue.
Pourquoi certains êtres sont-ils appelés plus que d'autres? Pourquoi sont-ils choisis de façon particulière?
Il a été dit, et ceci a laissé beaucoup à réfléchir dans les textes évangéliques, lorsque Christ disait, beaucoup sont appelés et peu sont élus. Nous vous dirons que beaucoup sont appelés à l'intérieur d'eux-mêmes et que vous-même, chaque jour, vous êtes appelés à la transformation. Mais la transformation suppose la volonté et la volonté n'est pas toujours parfaite. Nous vous dirons cependant que dans la création, rien n'est perdu. Même ceux que nous avons qualifiés au début de cette entrevue d'énergie grise ne sont pas de l'énergie perdue, et même si nous avions dit de l'énergie noire, car nous vous dirons que sera l'obscurité lorsqu'elle aura rencontré le soleil parfait de Dieu, elle deviendra elle-même lumière. Alors, nous quitterons bientôt. Alors, nous vous dirons, un instant, s'il vous plaît. Pouvez-vous électriser le texte? Merci beaucoup. Nous vous dirons tous ce qui sont appelés. Mais il y a des gens qui veulent évoluer, qui cherchent et qui travaillent au niveau de cette évolution. Mais il y a des gens qui nient l'évolution, qui ne veulent pas avancer. alors leur pèlerinage est beaucoup plus long, beaucoup plus fastidieux et prend beaucoup plus de siècles avant qu'ils ne puissent atteindre les sommets de la lumière. Nous vous dirons qu'il y a des êtres qui ne se sont pas incarnés des centaines de vies pour comprendre le chemin de l'illumination. Mais il y a d'autres êtres qui ont mis plusieurs siècles avant d'atteindre ces sommets de l'illumination. Alors nous vous dirons, tous sont appelés, mais peu sont élus rapidement. Peu, nous dirons, passent de la première à la septième montagne en un seul trait. Beaucoup sont obligés de monter chacun des sept paliers de chacune de ces sept montagnes à des reprises indéfinies. Alors nous vous dirons, beaucoup sont appelés et tous sont élus d'une certaine façon, puisque rien n'est perdu dans la création. Et c'est ce que vous devez croire. Si vous croyez ceci, c'est que vous engendrez ceci. Le Créateur, le Père Créateur, c'est votre pensée. Chacune des pensées humaines émane de la pensée du Père. Vous direz, alors le Père a des mauvaises pensées? Nous dirons, le Père trouve des canaux qui sont plus clairs et d'autres qui sont moins clairs pour faire émaner sa pensée. Mais la pensée de l'homme, la pensée de l'humain et la pensée de d'autres êtres sur d'autres plans créent toute réalité. Si vous pensez que vous êtes élu, vous l'êtes déjà. Si vous pensez que vous devez ramper, vous allez ramper. Si vous pensez que vous pouvez marcher debout dans votre lumière, vous allez marcher debout dans votre lumière. Étant donné que nous avons déjà demandé beaucoup d'énergie à la forme lumineuse et par respect pour elle, nous allons devoir quitter ce canal. Avant de quitter ce canal, nous demanderions au directeur qu'à la fin de cette rencontre, lorsque les gens se seront regroupés à nouveau, que vous puissiez faire chanter trois fois le mantra du son, du souffle et de la lumière. Nous vous dirons de plus, chers amis qui êtes présents ici ce soir, nous dirons, chers maîtres, croyez que vous êtes des maîtres et vous l'êtes déjà. Nous vous dirons, chers maîtres, laissez-vous pénétrer par l'énergie christique. Sachez que les temps présents sont les temps accueillant cette énergie. Cette énergie qui vient purifier le plan terrestre, qui vient la transformer, qui vient lui offrir ce pouvoir de transformation. Alors, chaque jour, lorsque vous retrouvez le matin, ce jour nouveau qui est devant vous, buvez cette énergie christique. Remplissez votre cœur de cette énergie christique. Portez-la comme un vêtement. Et sachez que le seul fait d'être en contact avec cette énergie et d'y croire émane des radiations beaucoup plus grandes que le son que nous avons chanté précédemment et qu'alors vous devenez ces créateurs de la Jérusalem nouvelle. Et nous vous dirons que dans le commentaire d'ouverture, nous comprenions que vous étiez chacun une partie de cet homme vêtu de blanc qui avait fait foi en sa prière, qui avait fait foi en sa confiance dans l'univers et qui avait trouvé le pilote pouvant le conduire jusqu'au sommet de cette montagne, la montagne de lui-même où il devient maître de son royaume. Avant de vous quitter, nous vous bénissons et nous vous disons, créez à l'intérieur de vous cette paix et cet amour qui n'a pas de fin et qui guérit vos frères humains, votre propre cœur et la terre tout entière. Amen. nous devons maintenant quitter la salle.
Merci beaucoup. Seigneur, protège de toutes les entités présentes, peu importe la source, et que les guides se joignent à nous afin que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. S'il vous plaît, commencez toute guérison qui s'avère nécessaire maintenant à tous les niveaux de l'être. S'il vous plaît, permettez à la pression sanguine et à toutes les autres fonctions du système physiologique qui ont été ralenties de revenir à la normale d'une manière naturelle et continue maintenant. J'aimerais que ce corps se réveille, se sentant pleinement régénéré et complètement équilibré maintenant.